Bonjour à chacun. Ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin et puis de pouvoir prendre la parole. Je vais en profiter pour donner quelques nouvelles. Il y a beaucoup de visages que je connais. Vous n'avez pas changé. En tout cas, pas comme ça physiquement. Et il y a d'autres personnes, peut-être, vous ne me connaissez pas. Donc, j'ai grandi juste en face à la Grand Rue 33. Et puis, depuis 4 ans, je suis pasteur à Bienne. Et c'est vrai que c'est un plaisir de pouvoir être encore membre ici de l'Église et d'être soutenu dans ce début de ministère à Bienne, où j'ai aussi eu l'occasion d'inviter plusieurs personnes de l'Église à prêcher. Dimanche prochain, il y a Richard Bernet qui va prêcher. Bien, il était à Bienne il y a 3-4 semaines. Il y a d'autres personnes qui sont venues aussi. Et c'était vraiment un soutien qui était précieux. Ça fait 4 ans que je suis à Bienne et j'arrive à la fin de mon mandat en novembre. C'est des mandats de 4 ans et donc je terminerai mon mandat à Bienne fin novembre et je ne sais pas encore ce qui nous arrivera pour la suite, mais je suis confiant que Dieu a déjà quelque chose de prévu, qu'il a des bonnes choses en réserve pour nous. Pour ce culte, il y avait un mot qui résonnait au fond de mon cœur, c'est la grâce. La grâce de Dieu. Je teste juste le petit appareil. Voilà, ça fonctionne. Alors, pourquoi la grâce ? Ben, pour plusieurs raisons. Déjà, parce que la grâce, j'ai envie de la rencontrer. J'ai envie de rencontrer des gens qui m'accueillent pour qui je suis et pas forcément pour ce que je fais ou pour ma fonction. J'ai envie d'être accueilli avec mes qualités, mais aussi avec mes défauts, parce que je sais que j'en ai et qu'une fois ou l'autre, je vais me planter et puis que je serai content d'être bien accueilli ce jour-là. Mais ce n'est pas tout. J'aimerais aussi être une personne de grâce, une personne capable d'accueillir l'autre tel qu'il est, non pas pour ce qu'il a fait, non pas pour sa fonction, mais pour qui il est, avec aussi ses défauts. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais parler un peu de ce que c'est la grâce et comment la Bible définit la grâce. Il y a quelque temps, je lisais un article de John Piper à ce sujet. On utilise souvent ce mot pour dire « la grâce, c'est un don accordé sans qu'il ne soit dû ». Et on trouve cette définition dans la Bible, cet usage dans la Bible. On peut penser à Romains 3, verset 24, qui dit « ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption » qui est en Jésus-Christ. On trouve également un usage qui est un peu moins habituel. La grâce est utilisée parfois comme une force, une puissance, quelque chose qui nous met en action. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus qu'eux tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu, qui est avec moi. Alors on voit la grâce, c'est quelque chose qui met en avant Paul. Et quand on voit ce que Paul a fait, c'est inspirant. La grâce est absolument centrale dans la foi chrétienne. Et nous devrions tous être pétris de la grâce de Dieu, tous être en train de transpirer la grâce de Dieu. Et si vous êtes comme moi, eh bien, on est souvent déçus ou parfois, j'espère pas souvent, mais seulement parfois, déçu de ce qu'on voit, de ce qu'on voit parfois dans l'Église, des fois un manque de grâce. Et nous-mêmes, bien souvent, on est incapable d'accueillir l'autre avec toute la grâce dont on aimerait faire preuve. Alors ce matin, nous allons voir un système de pensée, un mécanisme que nous avons régulièrement et qui nous empêche de faire grâce comme on devrait faire grâce à nos vrais frères et sœurs dans la foi. Dans une deuxième partie, nous allons parler d'histoire de David et Goliath et nous allons voir comment Dieu, dans cette histoire, montre son œuvre de grâce qu'il a prévue de toute éternité pour l'humanité. Et finalement, nous terminerons par quelques applications pratiques de comment on peut mettre cette grâce en pratique dans le quotidien. Et j'espère que cette grâce viendra vous habiter parce qu'il y a des gens qui marchent dans la vie par la colère, qui marche par la haine, puis on sent que c'est un moteur puissant dans leur vie. Et moi, je crois que la grâce est un moteur encore plus puissant. Et j'ai envie d'être nourri de cette grâce pour que ce soit ça qui me fasse avancer tous les jours, tous les matins. Un mécanisme qui est là et qui nous empêche de vivre la grâce comme on l'aimerait, c'est une manière de penser qui nous trompe. C'est de croire qu'on est déjà aujourd'hui au ciel, qu'on a été racheté aujourd'hui par Jésus-Christ, si on le sait, mais qu'aujourd'hui on est déjà une vie parfaite. Or, la Bible nous montre que l'homme a vécu dans quatre états. Il y a eu l'homme créé, il y a eu l'homme qui a été marqué par le péché, l'homme qui est déchu, il y a l'homme racheté en Jésus-Christ, et un jour, il y a l'homme qui sera auprès de Dieu. Alors, regardons ce que la Bible dit de ces quatre états de l'homme. Nous lisons dans les premières pages de la Bible, voilà les quatre états de l'homme, l'homme créé. On lit au début de la Bible, dans la Genèse, comment Dieu s'y est pris pour créer le monde. Et le sixième jour, il a créé l'homme et il l'a créé à son image. Quel cadeau plus grand aurait-il pu faire à sa créature que de le créer à son image ? Et après tout cela, après avoir tout créé, après avoir créé l'homme, il regarde sa création et Dieu dit en Genèse 1, verset 31, Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Au moment de la création, l'homme était très bon, sans péché, sans faute, parfait. On pourrait dire que lors de la création, l'homme vivait pleinement la grâce de Dieu. Alors, je parlais beaucoup de l'homme ce matin, mais bien sûr, quand je parle de l'homme, je parle aussi de la femme. En français, il y a cette chose qui fait que quand on parle de l'homme, on peut parler de l'homme pour l'homme et la femme, parler de l'être humain. Alors, ne soyez pas vexés si je parle de l'homme et pas de l'homme et la femme. Ce serait un peu redondant que je le dise à chaque fois. Ils avaient une seule tâche dans ce jardin, c'était de ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance et du mal, du bien et du mal. Et Dieu, dans sa bonté, a laissé l'homme libre de faire sa volonté ou de faire ce qu'il désirait, l'homme libre de choisir son commandement. Mais naturellement, l'homme faisait le bien, il était capable de suivre la volonté de Dieu. On pourrait reformuler cela et dire que l'homme créé peut pécher, l'homme créé peut pécher, mais naturellement, il ne le fait pas, il est libre. Deuxième état de l'homme, l'homme déchu. Vous connaissez la suite. Malheureusement, l'homme a choisi de manger de l'arbre, du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils ont péché, ils se sont détournés de Dieu. Et ce lien si parfait que Dieu avait créé entre lui et sa créature, en le faisant image de Dieu, eh bien ce lien a été rompu. Au lieu de regarder à Dieu, à son créateur, pour être image, il a voulu par lui-même être comme Dieu. Et après cette faute, après ce péché, eh bien la peur survient. Le travail devient pénible. L'homme par lui-même n'est plus capable d'aucun bien. La relation avec le sexe opposé devient conflictuelle, chacun cherchant un rapport de domination avec l'autre. Le péché donne un avant-goût à l'homme de ce que sera sa mort. Et depuis ce jour, l'homme séparé de Dieu ne peut pas ne pas pécher. C'est dans sa nature, c'est inscrit dans sa nature de pécher. L'homme déchu ne peut pas pécher. Comme le dit Paul en Romains 3, verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la grâce de Dieu. » C'est l'état de l'homme actuel, c'est l'état dans lequel nous étions avant de rencontrer Dieu. Mais heureusement, Dieu n'a pas voulu nous laisser dans cette misère. Il a envoyé son Fils pour nous racheter. Par son œuvre, Christ a souffert la mort que nous méritions. Il a racheté l'homme de son péché. Pour tous ceux qui croient en lui, il a donné un avant-goût de sa grâce totale, parfaite, que nous allons vivre pleinement lorsque nous serons auprès de lui. Et pour cela, il n'y a rien besoin de faire, absolument rien. C'est une grâce complète, totale. Rien à accomplir, rien à savoir, rien à faire, juste croire que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est mort pour nos péchés. comme le dit Jean au début de son évangile, mais à tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui ont reçu la parole de Dieu, le Christ, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Depuis ce jour glorieux où nous avons accepté le Christ, nos vies ont changé, nos vies ont été transformées. On a un autre rapport au péché. Jean, toujours dans son épître, la première, au chapitre 1, versets 7 et 9, « Mais si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Et on pourrait dire que l'état de l'homme racheté en Jésus-Christ, l'homme racheté ou l'homme régénéré, peut ne pas pécher. C'est possible. Maintenant, avant, on ne pouvait pas ne pas pécher. On était conduit par notre nature à pécher et par le sang de Christ qui nous couvre, on est capable de choisir de ne pas pécher. Enfin, on peut à nouveau goûter à ce qu'on avait perdu. Car en Jésus, la grâce de Dieu dans sa plus grande perfection a été manifestée. Le lien qui a été rompu par le péché a été recréé. Et cette grâce nous pousse non pas à nous complaire dans le péché, parce que Dieu pardonne, mais au contraire, à regarder à notre frère aîné, à Jésus-Christ, à voir comment lui il a marché et aspirer à cette qualité de vie parfaite, excellente, exempte de tout mal. Et c'est ce qui arrive lorsque nous choisissons de vivre par l'Esprit. Le péché s'éloigne de nous. C'est l'état de l'homme racheté, c'est l'état de l'homme des chrétiens, de ceux qui ont accepté Jésus-Christ. Et un jour, nous serons glorifiés. Ce sera lorsque Jésus reviendra vers nous ou que nous irons vers lui. Dieu nous ressuscitera d'entre les morts. Christ a été le premier à ressusciter, et de la même manière qu'il est ressuscité, eh bien nous ressusciterons avec lui. Nous recevrons de nouveaux corps et nous serons des hommes glorifiés. Et la caractéristique de l'homme glorifié, eh bien, c'est qu'il ne peut pas pécher. On en aura définitivement terminé avec le mal, avec nos combats, avec nos luttes, avec la maladie. Comme le dit Paul en 1 Corinthiens 15, versets 42 à 44. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Et à ce moment-là, nous vivrons dans une grâce de Dieu que, incommensurable. On a seulement les prémices aujourd'hui, mais là, ce sera total, complet, sans interruption. Je me réjouis de ce jour-là. Alors, le problème dans tout ça, c'est que lorsque nous devenons chrétiens, on découvre un nouveau rapport au péché. Enfin, on est libre, on n'est plus entraîné par nos mauvaises passions. Et on imagine à ce moment-là, je ne sais pas si vous avez vécu cette expérience, mais quand on rencontre le Christ et puis que son esprit habite en nous, eh bien, on imagine une vie sans péché. Et seulement voilà, vous avez peut-être fait le même constat que moi. L'homme régénéré, le chrétien, continue à pécher. Et cette constatation s'est peut-être faite dans la douleur. Cela est peut-être été, comme pour beaucoup de chrétiens, une grande désillusion de voir que nos frères et sœurs dans la foi continuent à faire le mal. Pourtant, c'est ce que Jean disait déjà. Il y a quelques instants, nous avons lu les versets 7 et 9 du premier chapitre de la première épître de Jean. Lisons les versets 8 et 10, juste entre deux et juste après. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est pas en nous. L'homme régénéré est pardonné, justifié. Mais l'homme régénéré peut encore pécher. Et c'est ce qui arrive, malheureusement, à chaque fois que nous détournons les yeux de Christ. À chaque fois qu'on détourne le regard, le péché prend le dessus et nous entraîne à de mauvaises actions. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'un jour, nous allons recevoir des corps glorifiés. Et qu'un jour, eh bien, nous serons définitivement délivrés de ce mal qui nous ronge et qui nous pourrit la vie. Et quand on pense à tout ce que Dieu a fait pour nous, nous délivrer du péché, nous racheter, nous pardonner encore et encore, c'est juste magnifique. Quelle grâce immense. Qu'avons-nous fait pour cela? Qu'est-ce qu'on a fait pour être créé à l'image de Dieu? Rien. Qu'est-ce qu'on a fait pour être racheté? Rien. Qu'est-ce qu'on fait pour être pardonné encore et toujours? Rien du tout. Rien du tout. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour avoir un corps exempt de la corruption, de la maladie? Rien du tout. C'est la grâce de Dieu. Et une chose qui me frappe quand on lit la Bible, c'est que Dieu, il n'a pas cherché premièrement à manifester sa victoire. Il a voulu manifester sa victoire d'une manière toute particulière. Il a voulu la manifester par la grâce. Et je vous invite à découvrir cela par l'histoire de David et Goliath. Je ne vais pas la relire. Je pense que c'est une histoire qui est souvent bien connue. Elle se trouve en 1 Samuel, chapitre 17. Les Philistins font la guerre à Israël. Et puis on peut imaginer que ça doit ressembler un peu à une scène du film 3. Vous avez vu le film 3? C'est un film à grand succès. Non, vous ne l'avez pas vu, mais je vais vous en parler. À un moment donné, Agamemnon, qui est un grand roi, veut conquérir de nouvelles terres. Alors il prend son armée, il va faire la guerre, et face à lui, il arrive un autre plus petit roi, qui certainement va se faire massacrer, vient là. Les deux armées se font face, les rois se rencontrent avant la bataille et ils décident d'éviter un bain de sang. Et pour cela, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, mais faisons combattre nos héros. Tu choisis ton meilleur homme, choisis mon meilleur homme, et puis celui qui gagne, eh bien, a gagné la guerre. Puis on voit alors un gros gaillard aux muscles saillants qui sort des rangs de l'armée. Voilà, c'est l'image que j'ai mis là. Je n'irai pas me frotter à lui personnellement. Bon, et puis après, Agamemnon fera appel à Achille. Et puis là, on sort un petit peu de la comparaison qu'on pourrait faire avec notre texte biblique. Mais j'imagine les Philistins qui font sortir leur plus grand héros. Un gars immense, 3 mètres. Peut-être qu'il devrait baisser la tête pour passer ici, ou peut-être ça irait tout juste, le plafond est assez haut. Et puis, les Israélites ont peur. Personne n'ose aller l'affronter tant il semble redoutable. Ce sera finalement le petit David, avec un caillou et un bâton, qui ira affronter le géant Goliath. Conduit par Dieu, il plantera son caillou entre les deux yeux du géant, qui s'écroulera par terre, il ira prendre son épée et lui tranchera la tête. On peut tirer plusieurs conclusions de ce récit. Et une des conclusions, on peut se dire, mais faisons comme David, ayons confiance en Dieu, mettons à sa disposition les faibles moyens que nous avons et il nous fera triompher de nos ennemis. Et je pense que c'est une bonne conclusion, que c'est juste, mais peut-être qu'il manque quand même un petit peu quelque chose. Parce que le Nouveau Testament nous dit que toutes les prophéties ont été accomplies en Jésus-Christ. Et quand on lit le Nouveau Testament, les prophéties, ce n'est pas juste des paroles qui concernent l'avenir. On voit que les auteurs du Nouveau Testament considèrent l'histoire d'Israël comme une prophétie annonçant la venue de Christ. Si Dieu avait voulu accorder la victoire à Israël, si c'était ça son premier but, la victoire, peut-être qu'il y aurait eu un moyen beaucoup plus facile. Parce que du côté d'Israël, il y avait aussi un héros. Vous savez qui c'est? Il y avait aussi un géant, un gars plus grand que tous les autres. Saül. Mais oui, quand il est fait roi, en 1 Samuel, chapitre 9, verset 2, il est dit que Saül était jeune et beau, plus beau que tous les Israélites, et qu'il les dépassait tous d'une tête. Cela aurait été beaucoup plus simple d'utiliser Saül. C'est lui qui aurait dû aller au combat. Encore jeune, plein de force, plein de vigueur, un guerrier. Ah, mais comme le dit très bien Achille, le héros d'Agamemnon, Imaginez un roi livrant ses propres batailles. Ce serait mémorable. Saül se défile. Il n'ose pas aller au combat. Mais Dieu veut montrer sa grâce. Malgré la faiblesse du roi, malgré la faiblesse d'Israël, il veut accorder la victoire à son peuple. Et il l'accordera par ce qui est faible. Un petit rouquin, un gamin, dernier de la famille, peut-être, probablement, un petit peu méprisé par son père. Quand il avance vers Goliath, on se dit, mais c'est foutu, hein, il va se faire écraser comme une vilaine araignée. Mais avec une pierre, il abattra le géant. Oui, Dieu donne la victoire par ce qui est faible. Christ, quand il arrive sur la croix, c'est foutu, il est méprisable, on n'ose pas le regarder. Et pourtant, par ce qui était faible et méprisé, Dieu a accordé la plus grande victoire de tous les temps. Ce n'est pas un géant qui l'a battu, c'est notre ennemi le plus redoutable. La mort même a été vaincue sur la croix. La victoire est importante, mais Dieu semble montrer que la manière de remporter la victoire l'est encore plus, ou en tout cas tout aussi importante. Vaincre par la grâce. Dans le jardin d'Éden, Satan a séduit l'homme. Il a réussi à le faire pécher. Et à ce moment-là, Dieu aurait pu réduire les hommes en poussière avec Satan et toute la création. Qui le lui aurait reproché ? Personne. Il est Dieu, il fait ce qu'il veut. Et en plus, il était dans son bon droit puisque la loi n'avait pas été respectée. Pourtant, Dieu attend. Il donne l'occasion à l'homme de se repentir, de se racheter, de restaurer ce lien qui avait été brisé. Il envoie son fils afin de remporter la victoire. Et cette victoire n'a pas lieu sur un champ de bataille, ça a lieu sur une croix. Il ne voulait pas laisser l'homme dans la misère. Imaginez si Dieu avait sur le champ puni l'homme et toute la création pour le péché. Eh bien aujourd'hui, moi je crois qu'on aurait peur de Dieu. On se dirait, mais ce Dieu est un Dieu impitoyable qui nous punit au moindre faux pas. Mais Dieu voulait une relation d'amour avec ses créatures. Et il a fait grâce, il a donné l'occasion à l'homme de se repentir. Oui, la victoire est importante, mais la manière de remporter cette victoire l'est tout autant. Il voulait s'assurer que ses créatures, que ses enfants l'aimeraient par choix et non par contrainte. On pourrait s'arrêter là. Mais j'aimerais explorer avec vous quelques implications pratiques que ça a dans notre vie personnelle et dans notre vie d'église. Cette vision de la rédemption en Jésus-Christ devrait façonner notre manière de vivre. La victoire que Dieu accorde est une victoire de grâce. Est-ce que quand nous sommes en conflit avec quelqu'un, comment allons-nous chercher à résoudre ce conflit? Est-ce qu'on va chercher une victoire à tout prix, même si cela implique d'écraser celui qui est en face de nous? Ou est-ce qu'au contraire, on va chercher une autre solution au conflit, à faire grâce, afin que les choses se passent différemment après? Parce que bien sûr, on peut avoir la victoire, des fois on montre qu'on est le plus fort, on élève la voix, on fait les gros muscles. Mais après, il ne faut pas s'étonner si à la prochaine occasion, nos ennemis nous dégomment comme on les a dégommés. Tandis que si on fait grâce, peut-être que la prochaine fois, on se fera dégommer quand même. Hein. Mais mais il y a une porte qui est ouverte. Il y a une porte qui est ouverte pour que ça se passe différemment. Ça devrait également avoir une importance sur comment on rend témoignage de Dieu. Nous ne sommes pas en train de montrer aux autres non-chrétiens qui n'ont rien compris à la vie que nous avons tout compris, que nous avons enfin trouvé le moyen de ne plus pécher. Qu'en Jésus-Christ, nous sommes devenus des surhommes capables de tout, irréprochables dans toutes nos actions. Non, nous témoignons au monde que nous avons rencontré un Dieu de grâce. Nous avons rencontré un Dieu qui, par la puissance de son amour, rencontré en Jésus-Christ, nous purifie de tout mal, nous purifie de tout péché. Cette perfection que nous recherchons tous, chrétiens, non-chrétiens, eh bien, nous l'avons trouvée. Et cette perfection, elle n'est pas en nous, elle est en Jésus-Christ. Et elle vit en nous par son esprit. Mais en attendant la glorification de nos corps, bien, on est toujours en train, parfois, malgré nous, de faire des erreurs, de rater la cible, de pécher. Mais pourtant, cette espérance habite en nous. Et nous avons trouvé une solution à nos manquements. Et le seul moyen de s'approprier cette espérance, c'est par la foi en Jésus-Christ. Notre manière de témoigner, ce n'est pas de montrer que nous avons remporté une victoire totale, absolue, claire, définitive, mais à l'exemple de Jésus-Christ, de manifester cette grâce qui habite en nous. Cette grâce qui donne une victoire définitive. Alors si Dieu n'était pas Dieu, si Dieu n'œuvrait pas dans le monde, la grâce serait inutile, ou tout du moins, elle ne permettrait pas de remporter la bataille. Hein, c'est comme j'ai dit avant, hein, dans un conflit, si on fait grâce, rien ne nous dit qu'après, on ne va pas se faire dégommer. Mais Dieu agit dans le monde. Alors la grâce est utile. Parce que Dieu remportera la victoire pour nous. Nous ferons grâce, nous pardonnerons et Dieu nous fera triompher. C'est ce que Christ a fait alors qu'il avait été mis injustement à mort, accusé injustement. Il n'a pas appelé une légion d'anges. Il a pardonné, il a fait grâce et son Dieu l'a relevé d'entre les morts. Et son Dieu, c'est notre Dieu. Dans nos vies, faisons la même chose. C'est son combat, pas le nôtre. Et vous allez dire, mais est-ce que vraiment mon combat, c'est celui de Dieu? Il y a deux possibilités. Soit on est en train de faire le mal sur une mauvaise voie. Et dans ce cas, effectivement, notre combat n'est pas celui de Dieu. Repentons-nous, car nous avons un Dieu de grâce. Mais si on fait ce qui est juste, ce qui est droit, alors soyons convaincus que notre combat est son combat et qu'il nous apportera la victoire par sa grâce. Il agira. Et ça peut avoir des implications toutes pratiques pour notre vie d'Église. Parfois, on imagine la vie d'Église, peut-être en deux mots, on s'imagine un lieu où on est en parfaite communion les uns avec les autres, où il n'y a jamais de problème et chacun est respecté pour qui il est et non pas ce qu'il fait. Ça, c'est peut-être en deux mots notre vision de l'Église, ce à quoi on aspire, tu aimeras ton prochain comme toi-même et Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. On se dit, mais le projet de l'Église, c'est un projet magnifique. Puis une fois qu'on est dedans, eh bien, on est parfois blessé par nos frères et sœurs dans la foi. Et bien souvent, pas toujours, mais bien souvent, c'est parce que dans notre élan pour Dieu, dans notre passion pour lui, ben, on oublie que nous sommes encore dans un état d'homme racheté et que nous allons encore pécher. Nous ne sommes pas encore des hommes et des femmes glorifiés. Oui, nous avons été délivrés du péché, mais notre état actuel fait que nous sommes encore capables de pécher. Et lorsqu'on est confronté à cela sans s'y attendre dans l'Église, eh bien des fois on est déçu. Il y a une désillusion, une déception, un goût amer qui se développe dans notre bouche. Oui, nos frères et sœurs dans la foi continuent à pécher. Et s'ils nous déçoivent, on peut être sûr à 100% qu'un jour c'est nous qui les décevrons. Face à ce constat, notre foi peut être ébranlée si nous n'avons pas combattu le bon combat. Si le but du chrétien, de l'Église, est d'être toujours triomphante, toujours remporter le combat parfaitement, alors cette désillusion, le péché sera vécu comme un échec. Et cette amertume que nous avons dans la bouche descendra dans notre ventre, dans notre cœur et viendra nous pourrir la vie. Mais si le but de l'Église, c'est de pouvoir manifester la grâce de Dieu, alors, ces désillusions, ces problèmes ne seront pas vécus comme des échecs. Ce sera au contraire une occasion que Dieu place sur notre chemin pour faire grâce à l'autre, comme lui-même nous a fait grâce. C'est une occasion de plus de témoigner dans l'Église et au-delà que nous avons un Dieu de grâce. Et de cette grâce que nous nous accorderons les uns aux autres, surgira la victoire. Une victoire inattendue, pas comme nous l'avions espéré, mais bien plus puissante et bien plus durable que si nous avions cherché à triompher par nos propres moyens. Il ne faut pas se complaire dans le péché. Comme si nous étions encore des hommes et des femmes déchus. Non, nous avons été rachetés. Nous devons chercher la perfection, parce qu'un jour nous recevrons de nouveaux corps. Cherchons à vivre déjà ça aujourd'hui. Et quand on confond de Dieu, notre vie soit juste, droite, exemple de tout mal, tout en sachant que cette réalité n'est pas encore la nôtre et qu'elle est à venir. Nous allons prier. Seigneur, nous nous approchons du trône.